Les prisonniers du temple.
La muraille était couverte de salpêtre. Une clarté fumeuse, jaunâtre, commençait à descendre dans la salle voûtée creusée en sous-sol. Le prisonnier qui sommeillait, les bras repliés sous la barbe, frissonna et se dressa brusquement, hagard, le cœur battant. Il vit la brume du matin qui coulait par le soupirail. Il écouta. Distincte, bien qu'étouffée par l'épaisseur des murs, il percevait les cloches annonçant les premières messes, cloches parisiennes de Saint-Martin, de Saint-Méry, de Saint-Germain-l'Auxerrois, de Saint-Eustache et de Notre-Dame, cloches campagnardes des villages de la Courtille, de Clignancourt et du Montmartre. Le prisonnier n'entendit aucun bruit qui pût l'inquiéter. C'était l'angoisse seule qui l'avait fait sursauter, cette angoisse qu'il retrouvait à chaque réveil, comme dans chaque sommeil il retrouvait un cauchemar. Il prit sur le sol une écuelle de bois et y but une longue gorgée d'eau pour calmer cette fièvre qui ne le quittait pas depuis des jours et des jours. Ayant bu, il laissa l'eau reposer et se pencha sur elle comme sur un miroir. L'image qu'il parvint à saisir, imprécise et sombre, était celle d'un centenaire. Il demeura ainsi quelques instants cherchant ce qui pouvait rester de son ancienne apparence dans ce visage flottant, cette barbe d'ancêtre, ces lèvres avalées par la bouche édentée, ce long nez amaigri qui tremblait au fond de l'écuelle. Puis il se leva lentement et fit deux pas jusqu'à ce qu'il sentît se tendre la chaîne qui le liait à la muraille. Alors il se mit brusquement à hurler.
« Jacques de Molay ! Jacques de Molay ! Je suis Jacques de Molay !»
Rien ne lui répondit. Rien, il le savait, ne devait lui répondre. Mais il avait besoin de crier son propre nom pour empêcher son esprit de se dissoudre, pour se rappeler qu'il avait commandé des armées, gouverné des provinces, qu'il avait détenu une puissance égale à celle des souverains, et que, tant qu'il garderait un souffle de vie, il continuerait d'être, même dans ce cachot, le grand maître de l'ordre des chevaliers du Temple. Par un surcroît de cruauté ou de dérision, il s'était vu assigner pour prison une salle basse de la grande tour de l'hôtel du Temple, la maison mère de l'ordre. « Et c'est moi qui ai fait rénover cette tour !» murmura le grand maître avec colère, en frappant du poing la muraille. Son geste lui arracha un cri. Il avait oublié son pouce écrasé par les tortures. Mais quelle était la place de son corps qui ne fut pas une plaie, ou le siège d'une douleur? Le sang circulait mal dans ses membres, et il souffrait d'abominables crampes depuis qu'on l'avait soumis au supplice des brodequins. Les jambes enfermées dans les planches de chêne, que les tourmenteurs resserraient en enfonçant des coins à coups de maillet, il entendait la voix froide insistante de Guillaume de Nogaret, le garde des Sceaux du royaume, qui l'engageait à avouer. À avouer quoi ? Il s'était évanoui. Sur ses chairs lacérées, déchirées, la crasse, l'humidité, le manque de nourriture avaient fait leur œuvre. Mais de toutes les tortures endurées, la plus horrible, certainement, avait été celle de l'étirement. Un poids de 180 livres attaché au pied droit, on l'avait hissé par une corde à poulie jusqu'au plafond. Et toujours la voix sinistre de Guillaume de Nogaret. « Mais avouez donc, messire !» Et comme il s'obstinait à nier, on l'avait tiré toujours plus fort, toujours plus vite, du sol aux voûtes. Sentant ses membres se disjoindre, ses articulations s'arracher, son ventre, sa poitrine éclater, il avait fini par crier qu'il avouait, oui, tout, n'importe quel crime, tous les crimes du monde. Oui, les Templiers se livraient entre eux à la sodomie. Oui, pour entrer dans l'ordre, ils devaient cracher sur la croix. Oui, ils adoraient une idole à tête de chat. Oui, ils s'adonnaient à la magie, à la sorcellerie, au culte du diable. Oui, ils détournaient les fonds qui leur étaient confiés. Oui, ils avaient fomenté un complot contre le pape et le roi. Et quoi d'autre encore? Jacques de Molay se demandait comment il avait pu survivre à tout cela. Sans doute parce que les tourments, savamment dosés, n'avaient jamais été poussés jusqu'au point qu'il en dut mourir, et aussi parce qu'un vieux chevalier entraîné aux armes et à la guerre avait plus de résistance qu'il ne l'eût cru lui-même. Il s'agenouilla, les yeux tournés vers le rayon de clarté du soupirail. « Seigneur, mon Dieu, prononça-t-il, pourquoi m'avez-vous mis moins de force dans l'âme que dans la carcasse? Étais-je bien digne de commander l'ordre? Vous ne m'avez pas évité de tomber dans la lâcheté, épargnez-moi, Seigneur Dieu, de tomber dans la folie. Je ne saurais guère tenir davantage. » « Je ne saurais guère. » Enchaîné depuis 7 ans, Il ne sortait que pour être traîné devant les commissions d'enquête et subir toutes les menaces des légistes, toutes les pressions des théologiens. On pouvait bien, à pareil régime, craindre de devenir fou. Souvent, le grand maître perdait la notion du temps. Pour se distraire, il avait essayé d'apprivoiser un couple de rats qui venaient chaque nuit ronger les restes de son pain. Il passait de la colère aux larmes, des crises de dévotion au désir de violence, de l'hébétude à la fureur. « Ils en crèveront ! Ils en crèveront !» se répétait-il. Qui crèverait ? Clément, Guillaume, Philippe, le pape, le garde des Sceaux, le roi ? Ils mourraient, Mollet ne savait pas comment, mais sûrement dans des souffrances abominables pour expier leurs crimes. Et ils remâchaient sans cesse leurs trois noms abhorrés. Toujours à genoux et la barbe vers le soupirail, le grand maître murmura « Merci, Seigneur mon Dieu, de m'avoir laissé la haine. » C'est la seule force qui me soutienne encore.